Bonjour, je vous présente le mini-livre « Comment conserver la guérison divine » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. Comment recevoir la guérison divine ? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies » Matthieu 8, 17. Cependant, ce sont nos souffrances, maladies, dans le texte original en hébreu, qu'il l'a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 4. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Cet enseignement a un double objectif. Premièrement, établir que la guérison physique nous appartient selon la parole de Dieu et aider ceux qui en ont besoin à l'obtenir. Deuxièmement, enseigner ceux qui ont été rétablis à garder la guérison, parce que recevoir de Dieu est une chose et conserver ce qu'il nous a accordé en est une autre. Dans le premier verset, Matthieu cite Ésaïe en disant « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies ». Le deuxième texte déclare « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». Ces versets ont été tirés de la version du roi Jacques. Les notes dans plusieurs bibles d'études signalent que les mots utilisés dans le texte original en hébreu auraient dû être traduits par « maladie » et « douleur ». Après avoir lu dans ma Bible que Jésus a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies, j'ai décidé que ce n'était pas nécessaire que nous les portions, lui et moi. Et cela m'a libéré. Dieu merci. Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Un prédicateur fit observer un jour, « Bien sûr, Jésus l'a fait, mais ce n'est pas pour nous dans cette vie. Nous jouirons de ce bienfait pendant le millénium. » En l'entendant parler, je me suis dit, « Qui a tort ? Ce prédicateur ? Dieu ?» ou Jésus. Pourquoi ? Parce que nous n'aurons pas besoin de guérison physique dans le millénium. Nous aurons un corps nouveau, insensible à la maladie. Non, nous avons besoin de guérison physique maintenant dans ce monde. La maladie et l'infirmité sont dans ce monde. Béni soit le nom de Dieu, car il a pourvu à la guérison de notre corps pendant la vie que nous menons actuellement ici-bas. Dans le troisième verset, Pierre regarde en arrière et rappelle le sacrifice de Jésus en déclarant « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris » au temps passé. Je lisais les observations d'un théologien très respecté. Sa Bible doit être différente de la mienne, qui affirme « 1 Pierre 2, 24 ne parle pas de la guérison du corps, mais de celle de l'esprit. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris spirituellement. » Si cet érudit avait lu la Bible, il aurait appris que l'homme pécheur n'est pas guéri spirituellement. L'esprit humain n'est pas rétabli, mais naît de nouveau. Le croyant devient une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, 1 Pierre 2, 24 ne fait pas allusion à la guérison de l'esprit humain. En vérité, mes amis, la Bible n'en parle pas. Ce concept a vu le jour lorsque des psychologues sont nés de nouveau, ont reçu le baptême dans l'esprit et se sont mis à ajouter la psychologie à la parole de Dieu. Ils sont effectivement passés par l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême dans l'Esprit Saint, mais ont fini par tomber dans la confusion. Voyez-vous, lorsque nous recevons la guérison physique, nous sommes délivrés de la maladie, mais nous gardons le même corps. Si notre esprit était simplement rétabli, nous conserverions le même esprit. Mais gloire à Dieu, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pas la moitié, mais toutes. Cependant, sous une certaine optique, la guérison divine peut être considérée comme spirituelle. Notre corps est rétabli par Dieu, qui est esprit. Nous sommes guéris par l'esprit. Ainsi, on pourrait parler de guérison divine ou spirituelle pour le corps, sans faire aucunement allusion à celle de l'esprit humain. En d'autres termes, la guérison divine ne rétablit pas l'esprit humain, mais elle peut être qualifiée de spirituelle parce qu'elle est déclenchée par la puissance de Dieu. Lors de l'imposition des mains, la puissance divine est transmise au malade, mais, dans bon nombre de cas, elle ressort aussitôt. Pourquoi ? Les malades ne s'approprient pas la guérison lorsqu'ils essaient de la recevoir à travers leur entendement. La guérison divine n'opère pas sur le plan mental. Nous sommes incapables de communiquer avec Dieu à travers notre intelligence. Il n'est pas intelligence, il est esprit. À l'inverse de la science chrétienne ou des enseignements métaphysiques, la guérison divine n'est pas mentale. Elle n'est pas non plus purement physique selon les conclusions de la science médicale. Lorsque le Seigneur nous guérit, il nous rétablit physiquement, mais par l'intermédiaire de l'esprit humain. Il nous guérit par le moyen de la foi. Et selon la Bible, la foi vient du cœur, esprit. J'en ai été témoin plusieurs fois quand les chrétiens cessent de chercher à communiquer avec Dieu sur le plan intellectuel et qu'ils croient du cœur. Ils sont guéris instantanément, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, verset 10. Dieu nous touche par le moyen de notre esprit, pas à travers notre intelligence, ni par l'intermédiaire de notre corps, parce qu'il est esprit. La Bible affirme qu'il n'est ni intelligence ni homme. Bien qu'il possède un corps spirituel, les anges eux aussi ont un corps spirituel, Dieu n'est pas un être physique, il est esprit. Il communique avec nous à travers notre esprit et nous prenons contact avec lui par notre esprit. Lorsque l'homme guérit, et il en est capable, que nous le réalisions ou non, il se sert de l'intelligence ou des sens physiques. Mais quand Dieu guérit, il œuvre par le biais de l'esprit humain. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Si vous voulez entendre Dieu, écoutez Jésus. Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Jésus est Dieu. J'aime l'exprimer ainsi. Dans son ministère, Jésus représente la volonté de Dieu en action. Par exemple, dans le 9e chapitre de l'Évangile selon Marc, un homme se dirigea en courant vers Jésus pour lui parler de son fils qui était possédé d'un démon. Notons la réponse de Jésus. « Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. » Verset 23. Jésus se mit à parler de la foi qui est liée à l'esprit humain. Jésus répondit ainsi à la requête de l'homme, « Il ne s'agit pas de ma capacité, mais de ta foi. » Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Le psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. » La parole qu'il envoya sous l'ancienne alliance fut annoncée par les prophètes, mais sous la nouvelle alliance, la parole n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu, la parole vivante. Il envoya sa parole et nous guérit. Aux yeux de Dieu, nous sommes d'ores et déjà rétablis. Il nous a envoyé sa parole et nous avons été guéris. Et il nous a donné la parole écrite pour que nous sachions ce que la parole vivante a accompli pour nous. Fréquemment, Dieu permet à un croyant d'exercer sa foi en faveur d'un bébé en Christ ou d'un frère qui manque de connaissances. Dans ce cas, le Seigneur accepte un niveau de foi moins élevé. Par contre, il s'attend à ce que les chrétiens mûrs marchent à la lumière de leurs connaissances. Puisque tous n'ont pas atteint le même niveau de foi, Dieu a prévu 7 méthodes selon lesquelles on peut obtenir la guérison physique par la parole. Mon livre « 7 choses qu'il faut savoir à propos de la guérison divine » approfondit cette question. L'imposition des mains figure parmi ces méthodes. En imposant les mains aux malades par obéissance à la loi de contact et de transmission, le contact de mes mains transmet la puissance de guérison divine à leur corps afin de détruire les œuvres du diable et de rétablir les malades. Lorsque je sens qu'une force est sortie de moi, je déclare « ça y est, c'est là où ma responsabilité prend fin et la leur commence ». Chapitre 2. Que faire si les symptômes reviennent ? Les malades me disent parfois, « Frère Aiguine, lorsque vous m'avez imposé les mains, je ressentis une puissance telle un courant électrique traverser mon corps entier. Pendant longtemps, j'étais en pleine forme, mais maintenant, tous les symptômes sont revenus et ma condition est pire que jamais. Pouvez-vous m'aider ?» Je leur réponds, « Dieu merci, j'en suis capable. » Voyez-vous, vous avez été guéri par la foi d'autrui ou par une manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous n'aviez aucun fondement solide dans la parole de Dieu pour vous aider à conserver la guérison. Vous ressemblez à l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Les tempêtes se sont déchaînées contre elle et l'ont détruite. Les symptômes sont revenus et vous les avez acceptés. Vous n'avez pas reconnu l'œuvre de Satan et il a pu vous rendre malade à nouveau. Je dis aux malades, vous devez apprendre à connaître le Seigneur à travers sa parole. Comme Smith Wigglesworth l'a exprimé, je ne peux pas comprendre ni Dieu ni Jésus à travers mes sentiments. Je connais Dieu parce que la parole déclare à son sujet. Il est tout ce que la parole dit de lui. Apprenez à connaître Dieu par sa parole. Lorsque nous saisirons que nous avons été guéris par ses meurtrissures, qu'il a effectivement porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs, que lui-même a porté nos maladies et nos infirmités, nous aurons dans notre esprit la pleine assurance de notre guérison, de la même manière que nous savons que 2 et 2 font 4, et le diable n'aura plus de pouvoir sur nous. Si nous connaissons la puissance et l'autorité qui résident dans le nom de Jésus, et que nous avons le droit scripturaire d'utiliser ce nom, le diable n'aura plus aucune autorité sur nous. Quand les symptômes se présenteront, nous ne serons plus remplis de crainte. Nous nous moquerons du diable en disant, « Satan, tu sais que tu es vaincu. Maintenant quitte mon corps et il partira. » En août 1970, mon épouse et moi nous nous rendîmes à Syracuse, New York, pour prêcher à une convention des hommes d'affaires de plein évangile et d'y rester plusieurs semaines afin d'animer des réunions pour divers chapitres dans l'État de New York. Je me souviens de trois dames méthodistes qui se dirigèrent vers nous à la fin d'une réunion du matin pour nous dire « Tout cela est nouveau pour nous ». L'une d'entre elles me fit savoir que ses médecins l'avaient envoyée à un hôpital de New York City car il n'arrivait pas à identifier son affection. Au bout de 5 semaines, les spécialistes avaient pu diagnostiquer sa maladie, qui était si rare que je n'en avais jamais entendu parler. Les docteurs lui annoncèrent, « Dans toute l'histoire de la science médicale, il n'y a que 7 ou 8 personnes dans le monde entier qui en ont souffert. Elle est incurable. Nous ne pouvons pas vous dire combien de temps il vous reste à vivre. » Cela dépendra de l'évolution de la maladie, mais certainement pas plus de 10 ans. Ce n'est pas une grande espérance de vie pour une mère de 36 ans. Elle poursuivit, « On m'avait parlé des merveilleuses réunions de guérison qui avaient lieu à Pittsburgh et j'y suis allé. » Au cours de la première réunion, l'Esprit de Dieu se manifesta à travers l'évangéliste, qui indiqua du doigt cette femme en disant, « Il y a parmi nous une femme qui est atteinte d'une maladie très rare. En effet, selon la science médicale, il n'y a que 7 ou 8 personnes qui en ont souffert. « J'ai été guéri instantanément, » rapporta la dame. « Je suis retourné chez les spécialistes qui m'ont fait subir tous les examens possibles sans rien trouver. Ils ont déclaré, « Nous n'arrivons pas à le comprendre, mais il n'y a plus rien. Pendant des mois, j'étais en parfaite forme. » Elle nous dit, à mon épouse et à moi, « Maintenant, tous les symptômes sont revenus. Je n'en ai pas encore parlé à mon mari, mais mon état de santé est pire que jamais. J'ai assisté de nouveau aux réunions, mais je n'ai pas été guéri. Pouvez-vous m'aider ?» Je répondis oui. Voyez-vous, vous avez été guéri par un miracle que l'Esprit de Dieu a opéré par l'intermédiaire de cet évangéliste. Et merci Seigneur pour cela. Mais, après votre retour à la maison, lorsque vous vous trouviez toute seule, Satan a profité de votre manque de connaissance pour vous renvoyer les symptômes. Au lieu de leur résister, vous les avez acceptés. Que faire ? Demanda-t-elle. Assister aux réunions d'enseignement biblique que nous animons actuellement. Aussi commença-t-elle, avec ses 2 amis, à nous suivre d'une ville à l'autre où nous faisions l'enseignement aux différents chapitres de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile. Lors de notre départ, elle annonça « Frère Guin, je suis complètement rétabli. Chaque symptôme a disparu. Cette fois, j'ai obtenu la guérison divine par ma propre foi et je sais la conserver. Et j'ajouterai que j'ai également appris à aider les autres à recevoir leur guérison. Ce qui s'est produit chez cette femme méthodiste arrive souvent. Il est facile d'être guéri dans une grande réunion où règne la foi de groupe au sujet de la guérison divine. Plusieurs sont guéris par des manifestations particulières du Saint-Esprit ou à travers les dons spirituels. Lorsque ces gens rentrent à la maison, ils se retrouvent seuls. L'atmosphère de foi qui les entourait à la réunion est remplacée par le doute et l'incrédulité. Quand les premiers symptômes se présentent, ils disent « Je pensais que le Seigneur m'avait guéri, mais j'ai dû me tromper. » En faisant cette déclaration, ils ouvrent la porte au diable. Au lieu de se lever pour affronter le diable avec la parole de Dieu et d'ordonner que son pouvoir soit brisé, ils s'inclinent devant lui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de fondement solide basé sur la parole de Dieu. Ils dépendent des prières et de la foi d'autrui. Cela peut marcher un certain temps, mais la guérison permanente se fonde sur notre propre foi. Personne ne peut garder un rétablissement basé sur la foi d'autrui ou la manifestation des dons spirituels si sa foi n'a pas été affermie par la parole de Dieu au point où il sait défendre ses propres droits. Nous devons apprendre à dire au diable « Tu ne vas pas me remettre cela. Le Seigneur m'a guéri et je n'accepte plus ce qui provient de toi. » Nous devons apprendre à tenir ferme et à garder l'interrupteur de la foi enclenché. Nous savons que Dieu se manifeste à travers ceux qu'il a particulièrement équipés de dons spirituels. Et nous l'en remercions. Les dons de guérison attirent les gens. Mais tout comme les nouveaux convertis ont besoin de s'imprégner de la parole afin d'aller de l'avant, ceux qui désirent conserver la guérison divine doivent également veiller à ce que la parole soit enracinée dans leur cœur. Il y a de nombreuses années, j'assurais le pastorat d'une église du plein évangile au pays noir du Texas. Un jour, je me rendis en ville pour prendre le courrier dans ma boîte postale. Quand je vis l'un des membres de mon église attacher sa vache dans un pré où de l'herbe haute poussait à profusion. C'était en 1939. À l'époque, il avait le droit de le faire, car aucun règlement ne l'interdisait, en particulier dans les petites villes. Lorsque je me dirigeais vers lui, il voulut se lever et, soudain, il se tint le dos en gémissant. Je m'aperçus qu'il était incapable de se redresser et voulut l'aider.
« Non, non, non !
Ne me touchez pas, frère Guin, ne me touchez pas ! Cela me fait encore plus mal, » dit-il. Il lui fallut 5 à 10 minutes pour se redresser. Puis il observa, le rhumatisme est revenu. Il avait environ 63 ans et s'était éloigné du Seigneur pendant 25 ans. Au cours d'une réunion que j'avais animée dans son église 8 mois auparavant, il était revenu au Seigneur, je lui avais imposé les mains et il avait été guéri. Je demandais, « Que vous arrive-t-il, frère W ?» Il répondit, « Eh bien, avant-hier, j'étais en train de traire la vache et la douleur m'a atteint dans cette main, puis a longé le bras pour s'arrêter dans le dos. Chaque fois que je me penche, je n'arrive pas à me redresser. J'éprouve des difficultés à me servir du dos et du bras. Je souffre et je suis malheureux. » Je déclarai, « Frère W, vous savez que j'ai prié pour vous en janvier et que vous avez été guéri. C'est vrai. Comment le mal est-il revenu ? Je l'ignore. Je suis convaincu que lorsque cette douleur vous a frappé dans la main et a traversé votre bras, vous avez dit, peut-être même à voix haute, « Je pensais que le Seigneur m'avait rétabli. J'ai dû me tromper. » Il leva les yeux et me répondit, « Ou vous dites la bonne aventure, ou vous lisez dans mes pensées. C'est exactement ce que j'ai fait. » Je ne vous dis pas la bonne aventure, et je ne lis pas non plus dans vos pensées. Je sais qu'il vous a fallu ouvrir la porte au diable, sinon il n'aurait pas pu revenir. C'est exactement ce que j'ai dit. » Je le lui expliquais ainsi en déclarant cela. « Vous avez ouvert la porte au diable. Cela équivaut à dire, « Revenez, monsieur le diable, et remettez-moi cette maladie sur le dos. » Et Satan n'a pas tardé. « Oui, mais je vais vous dire ce que je crois. Tout ce que Dieu fait dure éternellement. Si Dieu nous guérit, nous le sommes pour toujours. » Vous voulez dire que si quelqu'un reçoit la guérison divine, il est incapable de la perdre ?
Parfaitement.
Vraiment ? Alors Jésus ne le savait pas. Il croyait qu'il était possible de perdre la guérison divine et les autres bienfaits de Dieu. Lorsqu'il apparut dans une vision à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il lui donna un message pour l'une des églises de l'Asie mineure. « Tiens ferme ce que tu as. » Pourquoi l'a-t-il dit ? Si un don divin ne peut pas se perdre. Nous avons un adversaire qui fera tout son possible pour nous le dérober. Maintenant, je vais vous poser une question. Lorsque je vous ai imposé les mains en priant pour vous en janvier, depuis combien de temps souffriez-vous de cette indisposition ?
Je souffrais et j'ingurgitais des médicaments tous les jours depuis 25 ans.
Je vous ai imposé les mains au nom de Jésus et toute la douleur a disparu. Pendant 9 mois, vous n'avez pas souffert. Vous n'avez eu aucun symptôme ni aucune douleur. Et vous n'avez plus pris de médicaments.
C'est exact. Et vous avez dit, « Je pensais que le Seigneur m'avait guéri, frère W. »
Un enfant de 12 ans, faisant preuve d'un peu de bon sens, aurait reconnu qu'il avait été rétabli.
Il se peut que je me trompe.
Je sais que vous avez tort. Je suis resté là, dans ce pré, et je l'ai enseigné pendant plus d'une heure. Et il a compris. Il m'a dit plus tard, « Je suis peut-être un peu lent, mais quand je reçois une révélation, je m'y accroche. » Cette fois, il reçut la guérison et sut la conserver.
Chapitre 3. L'importance de la foi. Pendant le grand réveil de guérison, les évangélistes tenaient de courtes séances et je les suivais en animant des réunions plus longues. À mon arrivée, je rencontrais fréquemment des gens qui avaient reçu leur guérison à travers le ministère des évangélistes, mais qui l'avaient déjà perdu. La même chose se produisait également au cours de mes réunions, mais je finis par leur apprendre à conserver la guérison divine. En 1952, l'évangéliste de guérison le plus en vue anima une réunion dans le collège de South Bend en Indiana. J'assistais à plusieurs séances et étais assis dans l'emplacement réservé aux serviteurs de Dieu, parmi lesquels se trouvait un pasteur du plein évangile venu de Floride. Il y resta plusieurs jours à attendre son tour. Bien qu'il disposât du privilège réservé aux serviteurs de Dieu de demander la prière à n'importe quel moment, il portait un appareil acoustique sans lequel il n'entendait rien. Le soir où on appela son numéro, il enleva son appareil et le mit dans la poche. Puis il se dirigea vers l'évangéliste et lui sourit. L'évangéliste lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il imposa les mains au pasteur et dit en prenant du recul « Vous êtes sourd. » Il pria pour lui. Et les oreilles sourdes s'ouvrirent instantanément. L'évangéliste, qui avait une voix basse et très douce, se plaça derrière le pasteur en chuchotant. Et celui-ci répéta tout ce que l'évangéliste disait. Il était parfaitement rétabli. Lorsque le pasteur était sur le point de regagner sa place, l'évangéliste dit « Vous assurez le pastorat d'une église du plein évangile en Floride. » Il avait su par révélation. Puis le pasteur s'assit de nouveau parmi les serviteurs de Dieu. Nous nous sommes entretenus avec lui et il a tout entendu, même lorsque nous murmurions. Nous l'avons vraiment mis à l'épreuve. Il était totalement guéri. Par contre, lorsque la séance fut levée, il n'entendit plus rien et remit son appareil. Pourquoi ? Il avait été guéri par une manifestation des dons spirituels, mais parce qu'il n'avait pas assez de foi pour conserver sa guérison, le diable la lui déroba. C'est pourquoi je modifiais mon ministère et consacrais plus de temps à l'enseignement, bien sûr. J'aurais pu faire de la publicité relative à ma vision pour remplir la salle et voir beaucoup de malades recevoir la guérison divine. Mais ces gens n'auraient pas pu la conserver. Donc, je faisais des conférences sur ce sujet tous les jours et continuais en même temps mon ministère auprès des malades. Un évangéliste bien connu, avec lequel je jouis de la communion fraternelle, m'a raconté l'anecdote suivante. Dans les années 40, au début de son ministère de guérison, cet évangéliste reçut au cours d'une réunion qu'il animait un coup de téléphone concernant un homme d'affaires, membre d'église, qui venait d'être victime d'une crise cardiaque à la maison. L'épouse du malade appela le presbytère en disant « Si nous le transportons, il décédera. Et s'il reste ici étendu sur le plancher de sa chambre,
il ne reprendra pas connaissance et mourra également. Le pasteur et l'évangéliste se précipitèrent chez l'homme d'affaires et lui imposèrent les mains en priant. Il se leva, instantanément guéri. Il enfila sa robe de chambre et ses pantoufles, descendit l'escalier, s'assit et s'entretint avec eux un bon moment dans la salle de séjour. Le pasteur et l'évangéliste s'excusèrent et l'homme d'affaires déclara « Je vais m'habiller pour aller au bureau ». Son épouse raccompagna les visiteurs, sortit de la maison, ferma la porte, descendit l'allée, jeta des coups d'œil inquiets autour d'elle pour s'assurer que son mari ne l'entendrait pas et dit « Continuez à prier pour lui ». L'évangéliste lui demanda pourquoi. « Parce que le diable reviendra le frapper d'une nouvelle crise cardiaque. Sœur, savez-vous quel est votre problème ? Vous avez plus de foi dans le diable qu'en Dieu. Vous vous tenez là à me dire ce que le diable va faire. Vous croyez qu'il a autorité et la puissance de provoquer une nouvelle crise cardiaque susceptible de tuer votre mari. Pourquoi ne déclarez-vous pas que le diable en est incapable ? Elle chuchota, « Pour rien au monde, je n'oserais le proclamer. » Pourquoi ? Parce que Satan l'entendrait. Nombreux sont les chrétiens du plein évangile qui ont plus de foi dans le diable qu'en Dieu. Ayez confiance en Dieu plutôt que dans le diable. Tenez ferme sur la parole de Dieu qui est la vérité. Selon F.F. Bosworth, croyez dans votre foi et doutez de vos incertitudes. Bien sûr, le diable essaiera de vous redonner les mêmes souffrances. Toutefois, si vous avez suffisamment médité la parole de Dieu, si vous vous en êtes nourri et l'avez fait pénétrer dans votre esprit, afin qu'elle fasse partie intégrante de votre être intérieur, vous chasserez le diable à chaque occasion. Au lieu d'avoir peur et de paniquer, si la tentation ou la douleur arrive, vous vous mettrez à rire. Chapitre 4. Résister au diable. Je m'étais déplacé afin d'animer une réunion pour un ami il y a de nombreuses années, quand je fus réveillé à 1h30 du matin par des symptômes alarmants dans mon corps. Je savais à quoi m'en tenir, car je suis né avec une malformation cardiaque qui m'a tenu cloué au lit pendant mon adolescence. Les médecins avaient prononcé mon arrêt de mort, mais, à l'âge de 17 ans, je fus guéri par la puissance de Dieu. Je ressentais ces symptômes dans le cœur et dans la poitrine. Le diable me dit « Tu vas mourir, c'est exactement ce qui va t'arriver. Tu as eu de la chance de vivre aussi longtemps. Rappelle-toi le diagnostic des médecins. » Cela lui ressemble, n'est-ce pas ? Cette fois, tu ne seras pas guéri. Il le répétait sans cesse et j'avais l'impression qu'une voix parlait à mes pensées. « Toutes tes souffrances sont revenues et tu vas mourir. À vrai dire, tu es à l'article de la mort maintenant. » Quelqu'un me demanda, « Qu'avez-vous fait ?» Puisque c'était en hiver, j'ai pu me cacher sous les couvertures pour rire. Comprenez bien que je n'en avais pas envie. Il y a un rire inspiré de l'Esprit de Dieu qui agit malgré nous. Mais je me suis efforcé de rire. J'ai caché ma tête sous les couvertures, car je ne voulais pas réveiller les autres qui dormaient dans la maison. Et j'ai commencé à rire aux éclats pendant environ 10 minutes. Le diable finit par me demander pourquoi je riais. « Je me moque de toi, » dis-je. Il n'aime pas qu'on se moque de lui, pas plus que nous. « Pourquoi ? Je me moque de toi parce que tu m'as annoncé que je n'allais pas recevoir ma guérison. Exactement cette fois, tu ne seras pas guéri. » Et je m'efforçais de continuer à rire. Le diable finit par me demander pour la troisième fois pourquoi je riais. « Je te l'ai déjà dit, je ris de toi. Pourquoi ? Tu as déclaré que je n'allais pas guérir. » « Exactement, cette fois, tu ne seras pas guéri. « Monsieur le diable, je ne vais pas obtenir ma guérison. Pourquoi en aurais-je besoin ? Jésus me l'a d'ores et déjà acquise. Je n'ai pas besoin de l'obtenir, je n'ai qu'à l'accepter. Or, au cas où tu ne saurais pas lire, je vais te citer 1 Pierre 2:24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Si nous avons été guéris, j'ai été rétabli aussi. Donc, je n'ai pas à obtenir ma guérison maintenant. Jésus me l'a acquise. Je l'accepte, je la revendique et elle est à moi. Tu n'as qu'à reprendre tes petits symptômes et t'en aller. » Le diable se précipita pour ramasser ses biens et partit à toute vitesse. La Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Jacques 4, verset 7. Je ne comprends pas pourquoi certains hésitent à le faire. Il se peut qu'ils attendent quelqu'un muni de longues cornes, avec une longue queue, des sabots et une fourche. Mes amis, opposez-vous à tout ce qui provient du diable. C'est ainsi que vous lui résisterez. Si le doute se présente, vous n'avez qu'à déclarer « Doute, je te résiste. Je refuse de douter. » Quand la peur fait son apparition, contentez-vous de dire « Crainte. Je te résiste. Je refuse d'avoir peur. » Si vous êtes attaqué dans le corps, proclamez « Je refuse de tomber malade. Maladie, je te résiste au nom de Jésus. Quitte mon corps. » Et elle partira. C'est votre droit. Dans une église du plein évangile, dans un état de l'Ouest, il y avait un homme qui était né avec un pied difforme et une jambe plus longue que l'autre de 10 cm. Étant infirme, il n'arrivait pas à marcher sans béquille. Sa jambe difforme ne s'était pas développée normalement, mais cet homme fut guéri dans une réunion que j'animais dans son église. Sa jambe infirme devint aussi longue que l'autre et son pied se rétablit. À l'âge de 37 ans, cet homme put porter sa première paire de chaussures identiques. 6 semaines plus tard, le pasteur invita l'assistance à lui soumettre des requêtes de prière le mercredi soir. Une femme se leva en disant « Pasteur, j'ai été guéri pendant une des réunions animées par Frère Higgin et pendant 6 semaines, j'étais en parfaite forme, mais tous mes symptômes sont revenus et mon état est pire que jamais. Je veux que vous priez tous pour moi. » Sans réfléchir, le pasteur se déclara d'accord. Puis l'homme qui avait été guéri du pied et de la jambe difforme demanda « Pasteur, permettez-vous que je dise un mot susceptible d'aider cette sœur ? Vous me connaissez tous. Je suis né infirme, mais sauvé et rempli de l'esprit depuis de longues années. Moi aussi j'ai reçu la guérison divine lors d'une réunion animée par le frère Higgin. Vous voyez que je suis parfaitement rétabli. La semaine dernière, je descendais la rue principale lorsqu'une douleur m'a atteint à la cheville et le pied s'est de nouveau recroquevillé. J'ai failli tomber, mais j'ai pu étendre la main pour m'appuyer contre un mur. La douleur était insupportable. Je me suis glissé le long du mur et me suis assis sur le trottoir. Je ne sais pas ce que les gens ont pensé. Parce que j'ai pris ma cheville et mon pied dans les mains et j'ai crié « Non, monsieur le diable, tu ne vas pas me remettre cela, Dieu m'a guéri !» Chaque symptôme est parti et j'ai retrouvé ma forme. L'homme conserva sa guérison, mais la femme perdit la sienne, malgré les prières faites par l'Église. Pourquoi ? La prière ne marcha pas dans ces conditions, car la femme avait déjà nié l'efficacité de la guérison divine. Souvent, on perd du terrain en redemandant la prière. Cela vous étonne peut-être, mais redemander la prière équivaut à dire « Je n'ai pas été exaucé ». L'année dernière, nous étions à Greensboro, en Caroline du Nord. Une femme se dirigea vers moi pour me dire « Frère Higgin, lors de votre visite il y a 2 ans de cela, j'ai été guéri de l'asthme et des troubles respiratoires qui s'y rattachaient. J'avais été soigné par des spécialistes pendant des années et avais dépensé beaucoup d'argent. Pendant 18 mois, je n'ai eu aucun symptôme. Mais il y a 6 mois, tous les symptômes de l'asthme et des troubles respiratoires sont revenus. J'ai failli donner libre cours au diable en acceptant ce qu'il m'envoyait. Mais j'ai continué à résister en disant « Non, tu ne peux pas me remettre cela. » Gloire à Dieu, j'avais suivi votre enseignement. Pendant votre séjour ici, j'avais assisté à toutes les réunions que vous animiez, la journée comme le soir. Mon mari a fini par insister afin que je subisse un examen médical et le médecin m'a dit « Je n'arrive pas à le comprendre. Vous avez les symptômes sans l'asthme. Tous les résultats sont négatifs. » Elle poursuivit « J'ai élevé la voix et j'ai déclaré « C'est ce menteur de diable qui m'envoie des symptômes mensongers essayant de me rendre malade à nouveau. » Le médecin répliqua « Peu importe, vous ne l'êtes pas. » Elle ajouta «
J'ai résisté et la maladie est partie. Si je n'avais pas suivi votre enseignement, je n'aurais pas su le faire. Si elle avait accepté les symptômes, elle aurait été malade de nouveau. J'ignore pourquoi les chrétiens ne résistent pas au diable et à tout ce qui vient de lui. La maladie ne provient pas de Dieu, elle ne vient pas du ciel, ce n'est pas une bénédiction. Je refuse d'accepter ce qui ne provient pas du ciel. Je sais que la maladie ne vient pas du ciel parce qu'il n'y en a pas là-haut. Quelqu'un a dit à propos de sa maladie, « Dieu me l'a envoyé. » S'il l'a fait, il a dû la voler. La maladie n'existe pas au ciel. Pour nous envoyer la maladie, Dieu devrait la dérober au diable. N'est-ce pas une idée ridicule? Non, Dieu n'est pas l'auteur de votre maladie. C'est le diable qui en est responsable. Il vous a menti en disant qu'elle venait de Dieu. Et vous étiez assez dupe pour l'accepter. La répétition de la bonne déclaration suivante fera pénétrer ces vérités dans votre esprit et vous aidera à recevoir et à conserver la guérison divine. Une bonne déclaration. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai autorité sur mon corps. Maladie et infirmité, partez. Ce corps, cette maison appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu. Satan, tu n'as aucun droit de pénétrer dans la propriété de Dieu. Ôte-toi de là. Quitte mon corps. J'ai autorité sur toi. Je le sais. Tu le sais et Dieu le sait. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole affirme aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci, Père. Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de foi à votre Père Céleste, vous pouvez inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une réelle joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire. Édition au pluriel. Boîte postale 1357 06006 Nice CEDEX 1 France. Notre contact email info@editionvictoireenunmot.com. Je répète, info@editionvictoire.com. Au revoir.